Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Tandis que le nouveau Parlement européen se réunit pour la première fois à Strasbourg, les tractations pour les postes clés se poursuivent à Bruxelles. De nouveaux noms sont sur la table, on fait le point avec Pierre Benazet. Dernière phase du procès France Télécom avec les plaidoiries des parties civiles, compte rendu d'audience d'Antoine Marette. Et puis la création d'emplois, la croissance et la baisse du chômage ralentissent. Anne-Laure Chouin analysera le dernier rapport de l'INSEE sur le marché du travail. Une ébauche de solution semble se dessiner au sommet de Bruxelles. Les discussions sur les attributions des postes clés s'étaient interrompues hier sur un constat d'échec. Mais depuis quelques heures, Pierre Benazet, on murmure que Ursula von der Leyen, l'actuelle ministre allemande de la Défense, pourrait prendre la présidence de la Commission européenne. C'est bien ça ?
Oui, effectivement, c'est le scénario qui est actuellement privilégié par les chefs d'État et de gouvernement qui ont repris leur session plénière, ce qui est bon signe, en tout cas, selon certains signes, que la fumée blanche va arriver bientôt. Ursula von der Leyen a pour elle aussi d'avoir des intérêts dans l'Europe sociale, puisqu'elle était ministre de la Famille. Elle a aussi pour elle d'être très francophone. Ce serait donc la Commission européenne. On aurait aussi le Premier ministre belge Charles Michel au Conseil européen et peut-être la Française Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. Elle a pour elle d'avoir prouvé en tant que directrice du FMI sa rigueur financière lors du sauvetage de la Grèce. Il y a toutefois un changement majeur sur les dernières prévisions. Ce serait que le futur responsable de la politique étrangère de l'UE pourrait être Josep Borrell, un socialiste espagnol, ministre des Affaires étrangères et ancien président du Parlement européen. Une concession envers Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol, qui a accepté de renoncer à la candidature du travailliste néerlandais Frans Timmermans. Du coup, il n'y aurait plus dans l'équipe de représentants de l'Europe centrale et orientale, ce qui a amené les 28 à proposer pour le perchoir du Parlement européen le Bulgare Sergueï Stanichev, ancien Premier ministre au moment de l'accession de son pays à l'UE et président des socialistes européens. Toute la question est maintenant de savoir si les chefs d'État et de gouvernement d'Europe centrale et orientale peuvent accepter ainsi un scénario qui fait dépendre leur représentation dans les institutions du bon vouloir des députés européens. Pour le reste, selon beaucoup ici, ce scénario permet à la fois la parité, l'équilibre politique et l'équilibre géographique, mais ce ne sont toujours que des hypothèses tant que ça n'est pas officiellement annoncé.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Le Parlement européen doit élire son nouveau président demain, même si les chefs d'État et de gouvernement ne réussissaient pas à s'entendre d'ici là. Aujourd'hui, les eurodéputés élus fin mai ont fait leur premier pas officiel à l'occasion de la session inaugurale dans un Parlement européen fragmenté qui ne sait pas sur quel pied danser avec les Britanniques. Un Parlement également marqué par l'absence des indépendantistes catalans. Madrid bloque leur prise de fonction et des milliers de Catalans sont venus dénoncer cette situation ubuesque devant le siège du Parlement strasbourgeois. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Jusqu'au bout, les Catalans ont espéré.
On ne savait pas s'ils pouvaient entrer ou non. On voulait les accompagner à entrer dans le Parlement.
Mais non, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté hier le recours déposé par Carles Puigdemont, comme ceux de ses collègues en prison ou en exil. Son siège reste donc désespérément vide à Strasbourg et c'est une vraie déception pour Tony, enveloppé dans le drapeau catalan.
Nous avons seulement l'espoir qu'en Europe, il y a des vraies démocraties. En Espagne, il n'existe pas. Il faut se battre au tribunal et à la Cour de justice d'Europe.
Et dans cette bataille, les Catalans peuvent compter sur le flamand eurodéputé sortant Marc de Mesmaeker.
La démocratie veut qu'on respecte les votes des gens. Les institutions doivent exiger aux États membres l'Espagne qu'elle respecte les droits politiques de tous les citoyens européens. Il s'agit des droits de l'homme, des droits politique et civile de tous les citoyens européens.
Sauf que l'Europe aujourd'hui refuse d'agir, selon l'écologiste José Bové, qui fait ses derniers pas dans les couloirs strasbourgeois.
On est dans une situation incroyable et personne ne bouge au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde se range derrière le gouvernement espagnol et personne ne veut fâcher le gouvernement espagnol. C'est quelque chose d'incroyable.
Le porte-parole du Parlement européen l'assure, il n'a pas le pouvoir d'agir dans ce dossier. C'est entre les mains de la Cour de justice, mais les Catalans gardent espoir. On continue, promet Carles Puigdemont sur Twitter. Il en va, écrit-il, de l'avenir de l'Union européenne comme espace de démocratie exemplaire.
Rosalie Lafarge à Strasbourg. 14 marins sont morts dans un incendie à bord d'un sous-marin de recherche de l'armée russe basé dans le Grand Nord. L'armée n'a donné que très peu de détails sur cet accident survenu hier dans un mystérieux submersible destiné, selon la version officielle, à l'étude des environnements marins et du fond des océans. La correspondance de Claude Bruyot.
Non détectable, classé top secret depuis la reprise de sa construction au début des années 2000, la S-12 Le Charic, capable en plongée de descendre jusqu'à 6000 mètres, a donc refait surface en quelque sorte à cause de cet incendie à son bord hier, alors qu'il effectuait des mesures en eau profonde dans la mer de Barents au large de Mourmansk. Ce sous-marin nucléaire, long de 79 mètres avec 25 hommes d'équipage, n'est pas à proprement parler un bâtiment de combat, mais il a été conçu pour être capable, par exemple en cas de conflit, de sectionner les câbles sous-marins intercontinentaux et notamment les liaisons les plus sensibles qui passent par le fond des mers. En clair, un sous-marin de la flotte du Nord spécialisé dans le sabotage et dont la marine russe ce soir doit éclaircir les défaillances presque 20 ans après la catastrophe du Koursk qui avait coûté la vie à 118 sous-mariniers déjà en mer de Barents.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture en Russie. Au lendemain de l'appel au secours lancé à l'ONU par la mère de Vincent Lambert, le médecin en charge du patient en état végétatif a averti la famille qu'il allait arrêter les traitements. Cela veut dire cesser d'alimenter et d'hydrater Vincent Lambert et mettre en place une sédation profonde et continue. Selon l'avocat de Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, il n'y a plus de voie de recours possible. Ce devrait donc être le point final de cette affaire qui déchire la famille depuis maintenant plus de 10 ans. Après des manifestations en ordre dispersé le mois dernier, l'intersyndicale CGT Sud FO et le collectif de paramédicaux interurgents ont appelé l'ensemble des personnels hospitaliers à se mobiliser aujourd'hui. Des manifestants en blouse blanche ou déguisés en robots ont défilé à Paris. Ils ne se satisfont pas de l'annonce d'une prime de risque par la ministre de la Santé. Les soignants expliquent qu'ils n'arrivent tout simplement plus à faire leur travail au quotidien. Tara Schlegel a rencontré Virginie, infirmière aux urgences de Valence.
Là, il y a une semaine, il manquait 4 médecins, donc ils étaient 2 pour faire tourner le SMUR, la régulation et l'accueil. Donc ça devient vraiment compliqué. On a des médecins qui sont en arrêt maladie aussi, des soignants qui sont en arrêt, qui ne sont pas renouvelés, même si on nous paye en heures sup. Et voilà, et beaucoup de services et directeurs d'hôpitaux jouent la montre et l'épuisement pour qu'on arrête. Mais on est encore là. Donc quand on choisit ces métiers-là, c'est justement pour prendre soin des gens. Et quand vous voyez des personnes âgées, voire très âgées, passer 24, 26, voire 30 heures sur des brancards, sous la lumière. Ah oui, ça a été récurrent tout l'hiver. Et vraiment, on n'avait pas de couverture à leur donner. On demandait aux familles de se déshabiller pour pouvoir les couvrir. Enfin, vous pouvez passer 24 heures dans un service d'urgence sans avoir à manger, en restant des heures souillées. Enfin, c'est inacceptable. On a beaucoup de patients qui font des escarres parce qu'ils ne bougent pas, parce qu'on n'a pas le temps de les lever. Et humainement, c'est hyper difficile à vivre, vraiment. Je le répète, mais au-delà de ces fameuses primes et de cet argent qui, voilà, personne ne crache dessus, mais vraiment, c'est la prise en charge des patients qui a de la valeur et qui nous tient à cœur. Et il faut absolument que le ministère trouve des solutions pour enrayer ces déserts médicaux. Mais là, le maillage sanitaire est en train de mourir en France et la loi 2022, elle va accentuer encore ça et ça, c'est dramatique.
Et cet après-midi, une dizaine de personnels des urgences ont commencé à s'injecter de l'insuline pour montrer à quel point ils sont à bout et pour forcer le gouvernement à répondre à leurs revendications. À forte dose, l'insuline peut tuer. Après 2 mois de débat, le procès d'anciens dirigeants de France Télécom pour harcèlement moral entre dans sa dernière phase. Parmi les plaidoiries des avocats des parties civiles, celle de maître Michel Ledoux. Il représente le frère de Nicolas Grenoville, un salarié de France Télécom qui s'est suicidé en 2009. On retrouve Antoine Marette au Palais de Justice de Paris.
Le 11 août 2009, Nicolas Grenoville est retrouvé pendu dans son garage avec un câble de connexion Internet France Télécom. Il porte une chemisette avec le logo Orange. Il laisse une lettre dans laquelle il écrit « Je ne supporte pas ce job et France Télécom s'en fout ». Nicolas Grenoville, c'est l'histoire d'un jeune homme de 28 ans recruté par France Télécom en 2005, un salarié très investi, selon maître Michel Ledoux.
C'était un garçon très consciencieux, un peu inquiet, qui n'en dormait pas la nuit, qui ne mangeait pas parfois à midi pour terminer son travail. Et ce pauvre Nicolas, qui a démarré dans un service où il n'était pas au contact avec les clients, il était sur les réseaux, a été balancé sans formation auprès d'une clientèle qu'il faut savoir gérer, avec laquelle il faut savoir composer, alors même que la formation théorique aurait dû durer au moins 8 ou 9 mois. Il a bénéficié en tout et pour tout de 3 jours de formation.
Pour l'avocat, la direction de France Télécom n'a pas tenu compte des nombreux signaux d'alerte. Il affirme qu'aucun des grands principes de santé au travail n'a été respecté.
Dans ce dossier France Télécom, à l'évidence, la direction générale, obnubilée probablement par l'urgence de la révolution numérique, par la nécessité de changer très vite, a oublié tout simplement l'essentiel du cahier des charges en matière de santé qui est l'accompagnement, la formation, l'organisation, mais pas l'organisation de l'entreprise, l'organisation de l'accompagnement des salariés.
Pour Maître Ledoux, le dossier France Télécom est un cas de harcèlement managérial chimiquement pur et cette violence catapultée sur le terrain, Nicolas Grenoville l'a prise en pleine tête. Selon l'avocat.
Les plaidoiries des parties civiles doivent se terminer jeudi. La création d'emplois, la croissance et la baisse du chômage, tout a ralenti en 2018, constate l'INSEE. Ce qui augmente en revanche, selon l'Institut national des statistiques, c'est le fameux coût du travail, qu'ont pourtant tenté de faire baisser tous les gouvernements successifs. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir.
Vous vous êtes penchée sur ce portrait du marché du travail en France qui vient d'être réactualisé par l'INSEE.
Oui, pour résumer, l'INSEE parle de marché du travail encore bien orienté, mais qui fléchit. En d'autres termes, on assiste à un ralentissement de la hausse de l'activité avec des emplois créés mais de façon moins importante qu'en 2017. L'emploi privé fléchit mais aussi l'emploi public, contre-coup notamment de la baisse des contrats aidés. En revanche, la qualité des emplois en France tend à s'améliorer. Dans les chiffres, ça signifie un recul des emplois à temps partiel et une stabilisation de la part du CDI dans l'emploi total. Quant au chômage, il baisse mais moins vite, là encore. Les explications de Vladimir Passeron, chef du département emploi à l'INSEE.
Le principal facteur des fluctuations de l'emploi, c'est principalement les fluctuations de la croissance. Donc la croissance du produit intérieur brut, le PIB, a été moindre en 2018. Ça a ralenti puisqu'on a eu plus 1,7% après plus 2,3% en 2017.
Moins de croissance donc et un coût du travail qui lui a franchement accéléré, estime l'INSEE. Alors qu'entre 2013 et 2017, les différentes mesures mises en place par le gouvernement Hollande avaient fait baisser l'indice du coût du travail, l'année 2018 l'a vu grimper à nouveau. Deux explications principales selon Vladimir Passeron.
Un des aspects de la baisse du coût du travail jusqu'à présent, c'était le CICE, mais également les primes à l'embauche. Et ces deux dispositifs ont été soit réduits, soit ont cessé en 2018. Et c'est ce qui a contribué à de moindres effets en 2018.
Les salaires, enfin, ils n'augmentent pas ou si peu. Dans un contexte où l'inflation, elle, augmente, leur hausse à ces salaires de 1,7% dans le privé et de 1,9% dans le public est passée quasi inaperçue pour les intéressés.
Anne-Laure Chouin. La République En Marche prépare activement les élections municipales de mars 2020. Une deuxième vague d'investiture a été dévoilée hier soir avec 19 candidats qui arboreront l'étiquette de la majorité présidentielle. Parmi eux, Thomas Cazenave à Bordeaux. Une investiture qui pose question étant donné que le successeur d'Alain Juppé, Nicolas Florian, qui a pris la mairie en mars dernier, entend lui aussi se présenter. Et c'est un candidat très Macron compatible, Stéphane Robert.
L'actuel maire de Bordeaux, Nicolas Florian, successeur désigné d'Alain Juppé en mars dernier, n'entend pas faire l'intérim. Il a l'intention de se présenter à l'élection municipale en 2020 et dans cette perspective, il donne des signes d'allégeance. Prenant ses distances avec sa formation politique d'origine, Les Républicains, il a aussi nommé premier adjoint Fabien Robert, un élu MoDem, parti allié du président de la République. Dans ces conditions, on a un peu de mal à comprendre que La République En Marche est investie face à lui un autre candidat, Thomas Cazenave, qui s'inscrit, lui, dans un projet de rupture avec l'ancienne municipalité.
Les Bordelaises et les Bordelais ils constatent dans la vie de tous les jours qu'il y a de nouveaux défis. Ce n'est pas les défis qui existaient en 1995, quand Alain Juppé est rentré dans la ville de Bordeaux, mais un défi autour de la mobilité, le prix du logement, l'enjeu de la transition écologique. Donc on a tout un tas de défis qui nécessitent non pas des ajustements ou juste de se mettre dans les pas d'Alain Juppé, mais nécessitent justement d'imaginer un nouveau projet.
Thomas Cazenave, même s'il est né à Bordeaux, renvoie l'image d'un énarque, parisien, ami d'Emmanuel Macron, il était avec lui au ministère des Finances, ce qui laisse perplexe une grande partie des responsables politiques locaux. Même le député La République En Marche du Médoc, Benoît Simian, s'interroge. Attention, danger, dit-il, avec ce parachutage, on va alimenter les ferments de la division. Il faut dire qu'au vu des résultats des européennes à Bordeaux, En Marche peut nourrir des ambitions. La liste de la majorité y a fait près de 30%. Pour autant, cette investiture, selon certains, n'aurait rien de circonstanciel. Elle serait préparée de longue date. On se demande même, explique une élue locale, dans quelle mesure Alain Juppé n'a pas été nommé au Conseil constitutionnel sciemment pour dégager la place. Parce qu'au-delà de faire élire des conseillers municipaux pour s'implanter localement, Emmanuel Macron a besoin de victoires symboliques aux municipales. Et il y a très peu de grandes villes en France en dehors de Paris susceptibles d'être conquises par un marcheur. Bordeaux est l'une d'entre elles.
Stéphane Robert. Demain mercredi, journée agréable et bien ensoleillée au nord de la Loire jusqu'au Grand Est. Sur le reste du pays, il faudra compter avec des passages nuageux, voire des averses et des orages sur les reliefs. Température minimale 9 à 25 degrés du nord au sud, maximale 19 à 22 près de la Manche, 23 à 32 ailleurs, 30 à 37 sur les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.